Béni soit le Seigneur. Quelle joie de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur. C'est bien différent qu'être tout seul derrière son micro pour vous prêcher. Hein? Donc, certains m'ont dit, mais c'est étonnant, c'est pas, tu n'as pas la même manière de prêcher. Ben, forcément, quand on est seul. Physiquement, certes, le Seigneur est toujours là, on est d'accord, mais la communion fraternelle fait du bien, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts à dire à vos frères et sœurs, la communion fraternelle nous fait du bien? Regardez-vous, dites-vous, la communion fraternelle nous fait du bien. Parce que quand on est seul dans notre coin, malheureusement, on décharge nos batteries. Mais le fait d'être ensemble, on se communique cette joie, ce bonheur, cette grâce du salut que nous avons en Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais partager un texte de la parole de Dieu avec vous dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 13 au verset 29. Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 13 au verset 29. Et le titre du message de ce matin, c'est « Garder le cap et tenir bon ». Plus que jamais, il est question pour nous de garder le cap et tenir bon jusqu'au bout, n'est-ce pas? Alors, j'ai été interpellé par ce texte, je vous dis sincèrement, pendant la journée de vendredi, pas moyen d'avoir le thème du message. Je priais, j'ai préparé des choses, mais je sentais pas, c'était pas ce qui résonnait dans mon cœur. Et hier matin, Dieu m'a fait grâce, il est bon le Seigneur. Et il a posé ce texte que j'ai pu regarder un peu différemment, et c'est ça qui est beau, parce que la parole de Dieu se révèle à nous à chaque fois comme si c'était la première fois. Et du coup, on se dit, mais comment j'ai pu passer à côté de cela, n'est-ce pas? Alors, on va partager ensemble, et je suis certain, comme je le dis toujours, qu'autant de personnes qui sont présentes, il y a autant de messages. Parce que chacun reprendra et gardera ce qui le concerne de manière personnelle. Il y a un pot commun, mais après, ben, le Seigneur a préparé pour chacun le repas dont nous avons besoin. La parole de Dieu dit ceci, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 13. « Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise de rejetons et ne cause de troubles, et que plusieurs ne soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Vous n'êtes pas approché en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne les adresse pas un mot de plus. Car ils ne supportent pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais au contraire, vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, esprit des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Prenez garde. Ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussent celui qui sur la terre les avertit n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre. Et maintenant, il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créé, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayant de la reconnaissance, et rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Dans ce texte, la première chose qui m'a particulièrement interpellé, c'est ce premier verset où il dit que vos pieds suivent des pistes droites. La direction que Dieu nous donne, elle est bien droite. Il n'y a pas de détour. Il n'est pas question pour nous de marcher comme marche. Vous avez déjà vu comment ils se déplacent les serpents ? Hein ? Tends-toi à droite, tends-toi à gauche. Et il n'est pas question pour nous d'agir, de marcher, de vivre comme ça. Il est question de marcher droit. Et il dit, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Bien des fois, j'ai lu ce texte et je n'ai pas forcément prêté suffisamment d'attention en me disant, Seigneur, oui, tu nous appelles à être comme un exemple pour les autres. N'est-ce pas ? Qui l'a lu comme ça ? On se dit, Seigneur, que nos pieds suivent des pistes droites afin que les autres, quand ils nous voient, ils disent, ah, je suis boiteux, mais il y a une direction. Mais je voudrais vous dire ce matin, ce n'est pas le sens. Regardez bien le texte. Que vos pieds suivent des pistes droites afin que ce qui est boiteux dans votre vie ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Il est question pour nous de sortir de la boiteuse attitude. On est tous boiteux d'une manière ou d'une autre. Et c'est facile de regarder à la démarche et à la marche des autres en se disant, Seigneur, moi, heureusement, je marche droit. Mais Dieu nous avertit en nous disant, voilà la voie, marche-y. Et si tu te tiens, même ce qui encore est fragile dans ta vie, même ce qui encore a besoin d'être guéri, trouvera au fur et à mesure à se corriger. Avons-nous besoin de dire, Seigneur, corrige dans ma vie ce qui ne va pas ? Est-ce qu'on est conscient d'être boiteux ? Excusez-moi, peut-être ce matin, vous aurez préféré un message qui vous caresse dans le sens du poil. Mais je vous donne ce que j'ai reçu, donc je le prends d'abord pour moi et je le partage un peu avec vous. Comme ça, la charge, elle est répartie. Il est question pour nous de comprendre que le Seigneur, il ne nous pointe pas du doigt, mais il nous dit comment être guéri. Et si on reconnaît qu'on est boiteux dans notre manière de vivre notre foi, de vivre notre attachement à la parole de Dieu et de suivre le Seigneur est prêt à nous guérir, mes frères et sœurs, il faut tirer droit. Il n'est pas question de chercher des raccourcis, de faire des détours et de se dire « Ah tiens, je suis attiré, je pars ailleurs, je vais visiter un peu ce coin-là ». Ah, c'était pas si bon que ça. Je reviens sur le droit chemin. Et après, je vois autre chose qui attire mon regard. Et je pars à gauche. Et je veux voir autre chose, expérimenter autre chose. Et après, je reviens au Seigneur. C'est un peu, excusez-moi, l'exemple, mais il reste biblique comme le chien qui retourne à son vomi. Et c'est pas ainsi que le Seigneur nous a indiqué qu'il faut marcher. Garder le cap, c'est aussi revenir aux éléments fondamentaux et à rechercher, dit le texte. D'ailleurs, au verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Deux éléments à rechercher. Parfois, on a fait un raccourci « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est juste, mais n'oublions pas que la paix avec tous fait partie aussi du lot. Si je prends un médicament juste avec la moitié du traitement, je ne serai pas guéri. Il faut la totalité. Non ? Il y a besoin de recevoir de la part de Dieu et appliquer à notre vie tout ce que la parole de Dieu nous dit et pas ce qui nous arrange. Parfois, nous, on a une vision de la sanctification très personnelle. Seigneur, regarde ce qu'ils font les autres. Regarde pas chez moi parce que voilà, bon. Hein ? Je fais ce que je peux, mais les autres, ils sont imparfaits, Seigneur. Mais Seigneur, ce n'est pas ça qu'il nous dit. Et après, il est question de rechercher la paix avec tous. Est-ce que c'est facile d'être en paix avec tous ? Si c'était le cas, il n'y avait pas besoin de rechercher. Ça veut dire que ça demande un certain effort on ne voit pas tous les choses de la même manière. Quelqu'un m'a dit hier, comme il y a deux cultes, je vais écouter le premier prédicateur et le deuxième et voir celui qui me convient le plus. J'ai dit, c'est bien, je prêcherai avec mon premier prénom au premier et avec le deuxième prénom au deuxième. Tu feras ton choix. Mais ce qui est important, ce n'est pas le prédicateur. Excusez-moi, on s'en manque. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Et ça, là par contre, c'est autre chose. Il est question pour nous de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux véritablement garder le cap? Alors, à partir du verset 15, il nous dit, il nous donne des éléments de vigilance. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Juste avant, il parle de la sanctification. Et juste après, il dit que personne ne se prive de la grâce. La sanctification sans la grâce, elle est impossible. Vous entendez bien? La sanctification sans la grâce, c'est un manque d'équilibre qui nous amène à nous détourner de la vérité parce qu'elle est insupportable. Elle est impossible. La sanctification, certes, elle est là, mais on pourrait, excusez-moi, nous enfermer nous-mêmes dans bien des choses et pour autant continuer à pécher. Nous avons besoin de cette grâce dont on a déjà parlé en long, large et en travers, mais je crois qu'encore aujourd'hui, la grâce, c'est le message à répandre. Et parfois, on croit avoir tout compris de la grâce alors qu'on est loin d'avoir tout saisi. Et il dit à que personne, qu'aucune racine d'amertume ne produise de rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs en soient infectés. Il y a bien des choses qui peuvent, frères et sœurs, enlever l'équilibre qu'il doit être celui de la communion fraternelle. Parfois, une parole suffit, non? Une parole qui peut-être elle est sortie de son contexte, devient un prétexte, et c'est source de souffrance. Une parole. Mais tu as dit cela. Oh. Ouais, mais si tu avais entendu tout, tu aurais compris que ce n'était pas pour toi. Ah bon? Ah mais moi, je l'ai pris pour moi. Il est question pour nous de dire, Seigneur, garde-nous, pas seulement d'être à l'origine de ces rejetons, mais Seigneur, garde-nous aussi de les arroser. À l'arrière de l'église, sur la partie d'espace public, on a des roseaux. Et à chaque fois, on est obligé d'aller couper. Il y en a qui en ont fait une mission. Je ne dirai pas qui. Je ne dirai pas comment et ni quand. Mais béni soit le Seigneur pour ceux qui, voilà, ils travaillent à enlever ces roseaux. Mais vous savez, ils ont tendance à revenir. Vous avez déjà vu? Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire il ne faut rien faire, on laisse. C'est une guerre perdue. Parce que moi, je crois que le Seigneur est fidèle et bon à nous aider à nous trouver aussi la sagesse. Et vous savez, parfois, il faut prendre le courage d'aller et de creuser en profondeur, de retourner la terre et d'enlever toutes les racines. Parce que tant qu'on en laisse une petite, qu'est-ce qui se passe? Pas seulement ça repousse, elle se reproduit, elle se multiplie. Le moindre petit bout, il va repousser. Il est question pour nous de nous dire, déjà dans ma vie, Seigneur, je ne veux pas accepter que quelque forme, qu'elle soit d'amertume, puisse prendre place. Seigneur, je ne veux pas l'arroser. Et je ne permets pas à cela de pousser dans ma vie, parce que si je le laisse pousser dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la reproduire. Je vais passer à quelque part le problème aussi aux autres. Donc le Seigneur nous dit, veillez à que personne, et dans ce personne, nous sommes tous appelés, que personne non plus profane en effet la parole de Dieu, la grâce de Dieu, et qui renonce à cette bénédiction, parce que le jour où il y renonce, même s'il veut venir, même avec l'arme, ben il fera l'expérience d'Ésaü. Il a vendu pourquoi son droit d'aînesse? Oh là là, elles devaient être bonnes les lentilles. Hein? Non? Elles devaient être tellement bonnes ces lentilles qu'il a donné son droit d'aînesse. Et après, il aurait voulu. Hein ? Parfois, le besoin immédiat nous fait oublier le but final. C'est pour ça qu'il est question pour nous de ne pas regarder à ce qui est là maintenant, qu'on peut voir, toucher, qui nous est proposé, je dirais même qui nous est tellement en publicité. Mais il est question pour nous de garder le cap et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour nous ? Et le texte dit aussi de nous garder, parce qu'on ne s'est pas approché d'une montagne, on ne s'est pas approché d'une tempête, on ne s'est pas approché de l'obscurité, des ténèbres. Gardons-nous de tomber dans le paraspirituel, le mystique, le sensationnel, le spectaculaire. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Non. Parfois, ces choses-là, les gens, ils les cherchent, ils les attendent. Hein, si, excusez-moi de dire ça, moi j'ai entendu des personnes me dire, vous savez, il y a des cultes où il y a des choses incroyables, c'est spectaculaire. Vous m'excusez, mais je ne crois pas que Dieu cherche des intermittents du spectacle. Je ne crois pas que Dieu recherche du spectaculaire. Moi, je veux bien le miraculeux, mais pas le spectaculaire. Dieu n'est pas là pour entretenir un spectacle, il n'est pas là pour donner une farandole de choses pour nous émerveiller visuellement. Dieu est là pour travailler notre cœur. Et bien des fois, ça se fait dans le silence. Non ? On revient à cette idée que le Seigneur nous donne de nous garder. Gardons-nous de tomber là-dedans. Quand je parle de paraspirituel, comprenons bien, on peut tout dire que c'est spirituel, 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 mais où est l'Esprit de Dieu là-dedans ? Faisons attention à ne pas donner confiance et à ne pas donner de crédit à tout esprit. Mais la parole de Dieu nous dit d'éprouver, d'examiner et de demander à Dieu discernement. Et plus que jamais, nous en avons besoin. Gardons-nous de tomber sur ceux qui pourraient certainement attirer nos regards, mais qu'est-ce qu'il en est du message ? Je ne vois pas Jésus faire du spectacle. Et pourtant, il aurait pu. Jésus, même au moment où il a multiplié les pains et les poissons, c'était pour répondre à un besoin, non pas pour faire du spectacle. Quand il a guéri, c'était pour répondre à un besoin, mais pas pour faire du spectacle. Combien de fois Jésus est allé vers une seule personne qui était dans son coin et il est allé pour cette personne pour qu'elle soit guérie. Il lui a même dit, ne dis rien. Ne dis rien, c'est pas logique. Seigneur, parfois, frères et sœurs, nous invite justement à savoir retrouver ce qui est important et il est question pour nous d'être vigilants. Alors si nous ne sommes pas approchés de quelque chose de spectaculaire, de quelque chose qui peut attirer nos sentiments, qui peut à quelque part même peut-être être épidermique. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous savez, pasteur, j'ai eu des frissons. Et je lui ai dit, écoute, déplace-toi, trouve une autre place, parce que peut-être tu étais dans le courant d'air. Vous m'excusez, je suis comme ça, je veux blesser personne. Mais je pense qu'à un certain moment, si on se base sur ce qu'on peut ressentir de cette manière-là, on perd le vrai sens de la réalité. Alors je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous faire expérimenter des choses. Je les ai vécues moi-même et je bénis Dieu. Mais je crois que la vérité, le sens profond, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si les choses se passent à l'extérieur et il n'y a aucun changement à l'intérieur, c'est une erreur. Quand Dieu agit, œuvre et parle, c'est pour changer déjà à l'intérieur. Certes, à l'extérieur, ça se verra aussi. C'est inévitable. Mais si ça reste qu'extérieur et il n'y a rien à l'intérieur, il y a un gros problème. Il dit, mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Alléluia. De qui nous nous approchons ce matin ? De Jésus-Christ. Qui nous cherchons encore ce matin ? Jésus-Christ. De la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Votre nom est inscrit dans les cieux. Amen. Ah, vous êtes heureux. Hein ? Qui ne savait pas que son nom est inscrit dans les cieux ? Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est parce que peut-être vous n'avez pas demandé. Et demander, c'est de dire, Seigneur, je veux faire partie de ceux qui sont inscrits dans les cieux. Et pour cela, ben, Seigneur, j'accepte Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Je me repens de mes péchés. Je te donne ma vie telle que je suis. Je ne suis pas parfait. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas le dire. Mais moi, je peux le dire. Je ne suis pas parfait. Mais Seigneur, tu me fais grâce. Et chaque jour, Seigneur, tu m'aideras à marcher sur le chemin de la sanctification en prenant soin d'être en paix avec tout le monde. N'est-ce pas? Nous nous sommes approchés de celui dont le sang crie mieux que celui d'Abel. Le sang de Christ crie. Et vous savez, plus que jamais, le sang de Christ aujourd'hui crie pour appeler au salut les perdus. Et nous qui avons retenu, entendu, le Seigneur nous dit, prenez garde. Verset 25. Ne repoussez pas la parole. Ne repoussez pas le message. Ah, on pourrait se dire à tel prédicateur ceci, tel prédicateur cela. Attention, parce que certains ont repoussé les paroles de Moïse, de Paul, mais au-delà du nom, du prénom, qui a donné le message? Et que se passe-t-il si je rejette le message de Dieu? Certes, chacun d'entre nous, nous restons des hommes. Et ce que nous disons, ce que je dis, il faut que ça soit dans le plein respect de la parole de Dieu. Je n'ai pas le droit de dévier ni à droite ni à gauche. C'est une responsabilité. La parole de Dieu invite celui qui prêche, celui qui parle, à faire attention à ce qu'il dit. Parce qu'il a une double responsabilité. J'ai été très travaillé il y a bien des années, et encore aujourd'hui, ce verset reste dans mon cœur par cette parole qui Paul dira à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. » Amen. Certes, nous avons reçu le don de la parole et parfois c'est dur de nous faire taire, mais il faut que cette parole soit cohérente et attachée au fondement qui est la parole de Dieu. Et là, vous avez pas seulement le droit, mais je dirais le devoir de vérifier que ce qui est dit correspond à la parole de Dieu. C'est votre responsabilité personnelle. Et là, le jour où une parole ne colle pas à la parole de Dieu, il faut venir voir le prédicateur, le pasteur, dire « Pasteur, là, je ne comprends pas, je ne trouve pas les choses comme ça, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Et si l'explication, elle tient la route, alléluia. Si ce n'est pas le cas, ben, il faut revoir sa copie. N'est-ce pas? Je crois qu'il est question pour nous de comprendre afin que nous puissions, frères et sœurs, considérer et recevoir ce qui est inébranlable. Parce que certes là, il y a quelque chose qui est ébranlé. Ils ont eu peur, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu peur. Alors je me suis posé la question, pourquoi Dieu a parlé de manière à que le peuple ait peur? Dieu savait ce qui allait se produire en parlant comme il a parlé. Dieu savait ce qui allait se produire dans le cœur du peuple d'Israël en voyant la montagne embrasée, en sachant que même si un animal allait toucher la montagne, il devait être mis à mort. Dieu le savait, mais pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il fallait finalement comprendre qui est Dieu et ce que c'est les idoles. Et nous approcher de Dieu est une grâce, est un honneur, mais aussi une responsabilité. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Alors, comment tenir bon? Le verset 28 dit, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Vous savez, quelque chose qui est inébranlable, ça veut dire que peu importe ce qui va arriver, rien ne pourra prendre le dessus. Amen. Même pas le Covid. Même pas les lois qui peuvent être votées, même pas toutes les résolutions du monde entier ne pourront pas prendre le dessus sur le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors vous dites amen.
Amen.
Amen. Et on peut le proclamer, le royaume de Dieu est inébranlable. Ayant de la reconnaissance et rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Le culte, il doit être agréable à Dieu. Certes, c'est un bonheur d'être ensemble. Mais si on fait tout pour que ça soit agréable à nous et que ce n'est pas agréable à Dieu, on n'a pas atteint le but. Non ? On pourrait choisir de dire, tiens, il y a trop de lumière, on fait un peu plus tamisé. Au lieu des chaises en plastique, on met des fauteuils. Un jour, je me suis retrouvé dans une église qui était installée dans un ancien cinéma. Ils avaient fait le choix de garder les fauteuils, superbes fauteuils. Mais je vous dis sincèrement, au bout de 10 minutes, moi j'avais du mal à garder les yeux ouverts. J'avais du mal. C'était terrible entre la chaleur et les lumières tamisées et le fauteuil qui était un canapé. J'ai dit, Seigneur, garde-nous, ne nous mets pas ça dans le ciel parce qu'autrement on n'est pas sorti de l'auberge. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à ne pas chercher ce qui nous plaît. Mais demandons-nous, Seigneur, est-ce que le culte que nous t'avons apporté ce matin, est-ce qu'il t'est agréable ? Même, Seigneur, si tu m'as un tout petit peu écorché, même, Seigneur, si tu m'as bousculé, est-ce que ce culte t'est agréable ? Oui ? Amen. Alors, c'était ce que j'avais besoin et j'ai fait ce que tu attendais de moi. J'ai dit tenir bon. Bon. Alors, je me suis pris au jeu. Bon. B, comme brûler, comme briller. Est-ce qu'on est prêt à brûler? Puisque notre Dieu est un feu dévorant, il est question pour nous d'être bouillant. Vous savez ce qu'il dit à la lettre aux églises. Il n'est pas question d'être tiède. Il n'est pas question d'être froid. Il est question d'être... Ça commence avec un... Alléluia. O, obéir. Œuvrer. Il est question pour nous obéir et œuvrer, c'est accomplir le mandat que le Seigneur nous a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Il n'est pas question de faire autre chose que ce que le Seigneur nous a donné. Vous savez, déjà faire ça, ça nous occupe bien. Faisons-le. N. Alors N, j'ai tourné un bon moment. Et il y a un mot qui a retenti à plusieurs reprises et j'ai fait une petite recherche. Alors, comprenez bien ce que je veux dire. N comme noblesse de la vie en Christ. N'oublions pas que cette noblesse n'est pas là pour nous placer au-dessus des autres, mais nous rappeler la responsabilité qui est la nôtre en qualité de représentant du roi des rois. Il faut que notre vie chrétienne soit une vie chrétienne noble, pure, bonne, parfaite, agréable à Dieu. Alors, deux textes. 2 Timothée 2:21, il dit, si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Voulons-nous être des vases nobles, à honneur? Est-ce que nous désirons être ces vases? Alors il faut accepter d'être purifié. Et un dernier texte qui nous encourage, frères et sœurs, à chercher cette noblesse de la vie chrétienne. Et je répète, ce n'est pas une manière de se dire on est mieux que les autres. Dieu nous garde de ça parce que déjà on tomberait dans l'orgueil et on a déjà chuté. Mais il est question de dire ce à quoi le Seigneur m'a appelé, c'est noble. Et je n'ai pas le droit de jeter de discrédit. Ésaïe 32:8 dit, « Celui qui est noble forme de nobles desseins et se tient à ses nobles desseins. » Je l'ai pris dans la version Semeur, alors je ne sais pas si on l'a aussi. Oui. « Mais l'homme au noble cœur a des nobles desseins et toute sa conduite reflète sa noblesse. » Le monde attend de voir la révélation des fils de Dieu. Et le message de Dieu, l'évangile de Dieu est noble. C'est le message du roi des rois. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, pas seulement de garder le cap, mais aussi de tenir bon. On va fermer nos yeux. Seigneur, nous voulons te dire encore merci ce matin, parce que ta parole, elle est là pour nous rappeler, Seigneur, le besoin qui est le nôtre, Seigneur, de rester fidèle jusqu'au bout. Seigneur, les temps qui sont devant nous sont difficiles, mais Seigneur, ô combien nous avons besoin de ton secours. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont en ce moment même touchés dans leur santé, pour que tu puisses poser ta main sur eux, que tu puisses les relever, les guérir, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, encore pour notre pays qui traverse, Seigneur, cette période très difficile. Pour ceux qui sont, Seigneur, appelés à prendre soin des autres, tout le personnel médical, Seigneur, qui puisse, Seigneur, être, Seigneur, encouragé, fortifié, de voir comment Dieu est capable de relever, Seigneur. Merci encore d'être celui qui parle aussi, Seigneur, au cœur de ceux qui nous gouvernent, Seigneur. Que ta main, Seigneur, puisse leur donner sagesse dans les décisions qui vont prendre, Seigneur, pour qu'elle ne soit pas en contradiction avec ta volonté. Seigneur, nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre, Seigneur, d'agir et d'œuvrer selon ta parole. Et nous te prions, Seigneur, bénis notre pays. Touche notre pays par ta parole, Seigneur. Que cette parole puisse, Seigneur, transformer des vies, Seigneur. Que ceux qui aujourd'hui se donnent tellement, Seigneur, à faire autour de la souffrance, du malheur, Seigneur, puisse être transformé pour devenir tes enfants, pour être, Seigneur, des hommes et des femmes qui agissent avec sagesse, dignité, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir vraiment cette attitude autour de nous, de témoigner de ce Dieu glorieux, que nous puissions tous les jours de notre vie, pas seulement le dimanche, Seigneur, mais tous les jours de notre vie, te rendre un culte agréable.